Manaono, salam, bienvenue sur Malabar. Je suis Simb, je suis l'hôte du podcast Malabar. Malabar, c'est le premier podcast qui vous fait découvrir Madagascar autrement. À travers les expériences de mes invités, je vous emmène à la découverte de ce pays qui regorge non seulement de richesses, j'ai nommé la vanille de Madagascar, mais aussi et surtout d'une génération fantastique qui veut aider le pays à se développer. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours de mon invité, ses expériences et son regard porté sur le pays. Montage et réalisation de chaque épisode, Maillé, Rami Prod, je vous mets tous les liens dans les notes de chaque épisode. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Miour, bienvenue sur Malabar.
Bonjour Sambach, je suis ravie d'être avec toi.
Merci à toi, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors cet épisode, il a été rendu possible grâce à Louv, que je remercie, qui est le directeur exécutif de la Confédération du tourisme à Madagascar. Avant de commencer, Miour, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, s'il te plaît?
Ok, d'accord. Donc, je suis Miour Harapatsala. J'ai 46 ans, j'ai deux grands garçons, je suis mariée et je suis née et j'ai toujours vécu à Antananarivo. Je suis gérante d'un tour opérateur réceptif qui s'appelle Tour Mala Madagascar, spécialisé dans le voyage personnalisé et sur mesure. Et c'est un tour opérateur qui est engagé dans le tourisme responsable et solidaire en même temps. Donc, entre autres, nous avons créé le volet social en 2012 qui renferme toutes les activités de l'entreprise concernant l'appui à l'éducation, à la sensibilisation sur la préservation, sur l'appui au développement des communautés locales. Généralement, donc, le mot d'ordre de notre entreprise, c'est l'interaction humaine au cœur de la nature. En même temps, je suis membre du conseil d'administration de la Confédération du tourisme, qui est donc une association réunissant tous les acteurs de la chaîne de valeur du tourisme et ayant pour objectif de défendre les intérêts des opérateurs. Donc, c'est une force de proposition envers, par exemple, les pouvoirs publics ou les partenaires financiers ou autres. Troisième point, je suis aussi membre actif de diverses associations et comités de travail sur la préservation de l'environnement, sur toujours l'appui au développement des communautés locales et entre autres, donc, je suis présidente de la première association nationale qui s'appelle ANTSURE, Association nationale pour le tourisme responsable et solidaire, qui essaie de mettre en place et de faire connaître un petit peu le tourisme durable à Madagascar. En même temps, je suis présidente de l'association AVIMA, Association villageoise malagasse, qui met en avant et qui donne de la valeur aussi le tourisme au niveau des communautés locales, donc qui pourrait être pour eux une source de complément de revenus. Donc voilà globalement qui je suis, Sambach.
Alors à 46 ans, tu as plein de casquettes différentes. Déjà, est-ce que tu peux nous parler, avant qu'on parle bien sûr du tourisme à Madagascar, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Tu nous disais que tu étais née et que tu as grandi à Madagascar. Est-ce que tu as fait des études pour travailler dans le tourisme? Est-ce que tu as toujours voulu travailler dans le tourisme à Madagascar?
Je n'ai pas fait d'études de tourisme. Par contre, j'ai eu le coup de foudre pour le secteur depuis que j'ai eu mon bac, parce que j'ai pu côtoyer, j'avais des amis qui travaillaient déjà dans le secteur, donc qui faisaient un petit peu des tours de la capitale dans des sites historiques, donc qui amenaient quelques amis ou quelques clients. Donc, j'avais l'occasion de les accompagner et ça m'avait plu. Et par contre, entre-temps, je suis quand même passée par d'autres secteurs, donc j'ai été commerciale, j'ai aussi travaillé dans une banque, donc j'ai quand même fait pas mal d'activités entre-temps, mais je suis revenue dans le secteur vers, je dirais, il y a 20 ans. Et donc je me suis dit, c'est quelque chose que j'aime, Et par expérience, en accompagnant, en fait, et en rencontrant des gens de différentes nationalités, de différents pays, je me suis dit, pourquoi pas, j'aurais aussi des choses à présenter et à faire valoir par rapport à Madagascar. Donc voilà ce qui m'avait amené à finalement retourner dans le secteur du tourisme.
Alors justement, toi qui avais envie de présenter Madagascar à des touristes qui viennent de d'autres régions ou même d'autres pays, est-ce que toi déjà tu connaissais bien Madagascar il y a 20 ans? Comment c'était Madagascar pour toi? Qu'est-ce que tu connaissais de Madagascar? Est-ce que tu avais beaucoup voyagé dans Madagascar?
Au début, non, pas du tout. Je n'avais pas la possibilité de voyager dans tout Madagascar. Mais par contre, mon mari il avait comme travail, il était chauffeur guide dans une grande entreprise. Donc, c'est lui qui me partageait un petit peu toutes les informations, toutes les nouvelles qu'il voyait, en fait, toute la beauté qu'il ramenait chez moi à la maison. Donc, ça m'a beaucoup aidé à connaître un petit peu les états sur terrain, les situations. Et en même temps, je me suis beaucoup renseignée sur toutes les informations que je pouvais avoir, déjà avec toutes les possibilités de relations que j'avais au cours de mes années en tant qu'employée auprès de divers organismes et entreprises. Mais en même temps, personnellement, je n'ai pas arrêté. J'étais tellement passionnée que je n'ai pas arrêté à chercher, à continuer à me faire des bases de données concernant tout ce qui concerne Madagascar.
Et toi, justement, qui a grandi à Mada, aujourd'hui, si tu devais décrire Madagascar, moi, par exemple, j'y suis pas retournée, ça va faire très, très, très longtemps, ça se compte en vingtaine d'années. Comment tu décrirais Madagascar? Comment tu me présenterais Madagascar?
Au fait, on a une grande paradoxe parce qu'il y a d'un côté Madagascar connu internationalement comme un pays très très pauvre, mais en même temps, en parallèle, au fait, c'est un pays qui a une très très grande richesse, qui a une énorme potentialité. Et du coup, donc, ce que j'ai appris dans mon travail, c'est que malgré tous les points, je dirais, entre guillemets, négatifs que l'on pourrait juger de Madagascar, il ne faut pas se baser sur ces points négatifs parce qu'il faut juste sortir de chez soi et rien qu'à voir la nature autour, rien qu'à voir les gens autour de soi. Et même si on a la possibilité de partir hors des grandes villes, en fait, on a tout à gagner, on a tout à être heureux et être, comment je dirais,
Plus
en
épanouie.
fait, c'est un sentiment, voilà, c'est un sentiment que je n'arrivais pas à sortir personnellement, mais voilà, c'est tout un bonheur, il faut juste savoir, écouter et regarder.
Et est-ce que tu as beaucoup de malgaches qui visitent Madagascar ou tu as beaucoup de gens d'ailleurs?
Aujourd'hui, il y a de plus en plus de Malgaches qui visitent Madagascar. Parce que je pense qu'il y a eu pas mal de changements de mentalité. Au début, on avait toujours dit qu'il n'y avait que les étrangers qui pouvaient visiter Madagascar. Effectivement, ceci, c'était à cause des moyens de pouvoir partir et visiter Madagascar. Parce qu'il faut savoir aussi que pour se déplacer à Madagascar, comme chaque région est très éloignée l'un de l'autre, et que forcément, souvent, les Malgaches, quand ils voyagent tous en famille. Donc, normalement, ça nécessite budget et toute l'organisation. Mais depuis deux ou trois dernières années, au fait, le tourisme local a été lancé et d'ailleurs appuyé par le ministère du Tourisme. Donc, il y avait eu pas mal de collaborations entre les prestataires et les hôteliers et toute la chaîne de valeur. Donc, il y a eu la possibilité de donner une possibilité aux Malgaches de voyager un petit peu et de découvrir leur pays en interne. Souvent, les Malgaches de l'étranger, par contre, quand ils viennent surtout pour la famille. Il y en a qui ont la possibilité de partir un petit peu, de profiter de leur passage pour visiter Madagascar, mais généralement, ils sont en famille.
T'as des chiffres un peu de combien de Malgaches viennent par an pour revenir un peu visiter ou pas du tout à nous partager?
Pour le moment, je n'ai pas, mais c'est un fait qui va être donné dans pas longtemps, je pense, vers le début de l'année prochaine. Parce qu'il y a au fait, le ministère actuellement est en train de mettre en place une possibilité justement de compter les nombres de voyageurs à l'arrivée et essayer de les séparer un petit peu en tant que nationaux ou étrangers. En fait, il y a un système qui définit est-ce que ces personnes-là sont pour le visite famille, est-ce qu'ils sont là en tant que touristes. Donc, pour le moment, on n'a pas de chiffre exact, mais je pense qu'on aura d'ici quelques temps ou quelques mois.
D'accord, d'accord, merci. Maintenant, si on parlait un peu de Tourmalin Madagascar, est-ce que tu peux nous en parler et nous parler un peu de ton rôle au sein de ton agence, s'il te plaît, Miour?
Tourmalin Madagascar a donc été créé en 2010. C'était suite à une décision à moi et mon mari, qui est actuellement aussi mon co-gérant, mon associé. On avait envie de faire vraiment connaître Madagascar autrement que par la façon dont les autres entreprises ont voulu faire voyager les touristes à Madagascar. Donc, on avait mis longtemps pour trouver notre identité, mais au bout de quelques années, donc, on a pu établir une identité claire de l'entreprise. C'est que déjà, tous nos voyages sont basés sur l'humain, sur le partage et sur l'immersion, sur les rencontres. Parce que pour nous, l'humain, c'est le point essentiel, c'est la base de toute activité parce que tout vient de l'humain et si on prend soin de l'humain, donc forcément l'humain prendra soin de ce qui l'entoure. Et nous avons aussi remarqué qu'il n'y a pas de plus, comment je vais expliquer ça, il est très très important pour un voyageur de se dire à la fin du séjour que cette personne-là a vécu vraiment quelque chose de spécial, a expérimenté quelque chose d'unique qui lui a fait revenir un petit peu en soi-même et qui lui a fait réfléchir sur beaucoup de points par rapport à sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Donc, Tourmalin Madagascar a pris cet objectif-là. Souvent, quand je fais le briefing par rapport à nos chauffeurs et nos guides, je leur dis tout le temps, je veux que ces personnes-là aient les larmes aux yeux au départ. Et ces larmes aux yeux, ce ne sont pas des larmes de tristesse ni des larmes de désolation, mais ce sont des larmes de bonheur qui reflèteront l'expérience qu'ils ont vécue à Madagascar. Donc voilà un petit peu la philosophie de Tourmalin Madagascar. Et en même temps, on a vraiment pris l'obligation de contribuer aussi peu que nous pourrions à toutes les possibilités d'action ou de projet qui nous amèneraient à apporter notre contribution par rapport à la préservation justement de la biodiversité et du capital naturel que nous sommes en train de perdre à Madagascar. Et en même temps, par rapport à toutes les relations que nous avons pu tisser à travers tout Madagascar, par rapport à ces personnes qui sont éloignées de la ville et toutes ces communautés locales qui sont plus ou moins laissées à leur sort et loin de toute civilisation. Donc, le point essentiel qu'on a voulu apporter aussi à Tourmalin Madagascar, c'était qu'il fallait qu'on apporte notre contribution par rapport à toutes ces choses-là.
Alors, justement, à Madagascar, le tourisme, on en parle beaucoup. C'est quand même un pays qui attire, pas assez encore, mais il y a quand même pas mal d'étrangers qui vont à Madagascar pour le tourisme. Et des agences de tourisme, il y en a beaucoup aussi à l'étranger, oui, mais aussi à Madagascar. Toi, lorsque tu as fondé ton agence avec ton mari, est-ce que vous aviez, vous aussi, fait un voyage d'abord organisé avec une agence pour pouvoir comparer? Comment vous avez choisi vos produits, vos offres, vos services, les travailleurs avec qui vous allez travailler, les partenaires, les hôtels, les chauffeurs, etc. Comment vous avez construit tout ça pour avoir l'offre parfaite pour vos clients ?
Au fait, tout ça, ça s'est fait au fur et à mesure de nos expériences. Nous avons acquis pas mal d'expérience et de compréhension par rapport à ce travail, suite à nos différents travails, parce que moi aussi, je suis passée quand même par pas mal d'activités, parce que en tant qu'agent de tourisme, je suis passée par le guidage d'abord, après je suis passée par le commercial, en fait j'ai un petit peu traversé tous les domaines du secteur en tant que tour opérateur. Donc ça m'a expliqué toutes les attentes, tous les besoins, toutes les obligations et tout ce qui ferait la création d'un tour opérateur proprement dit, avec toutes les éléments nécessaires pour sa réussite. Par rapport à la recherche de clientèle, à un moment donné, nous avons commencé déjà de bouche à oreille, famille, amis de famille, amis de amis. Et nous avons quand même pu avoir une petite notoriété, donc à partir du bouche à oreille. Mais plus tard, donc, les bouches à oreille étaient de plus en plus insuffisants. Parce que souvent aussi, les gens y mettent beaucoup de temps à préparer leur voyage. Donc, plus tard, nous nous sommes mis dans des réseaux. Nous avons créé nos sites. Nous avons actuellement 2 sites. Et nous avons fait aussi, comment je vais dire ça, j'ai pu faire un salon international juste une fois, c'était en 2019, donc j'ai fait l'ITB à Berlin. Mais sinon, autrement, nous avons essayé en fait, je pense que c'est un peu comme le début de tout le monde, essayer de trouver dans Internet, de lister, de faire un listing et de voir un petit peu toutes les tours opérateurs émetteurs qui seraient un petit peu intéressés à Madagascar. Donc on avait envoyé des emailing, on avait envoyé, on avait pioché un petit peu dans Internet pour commencer.
Et donc aujourd'hui, vous êtes tous les deux, ton mari et toi, pour gérer l'agence. Comment ça se passe de travailler en couple ?
Pour nous, ça se passe vraiment super, super très bien. Et d'ailleurs, nous avons déjà travaillé ensemble dans diverses entreprises avant d'avoir créé notre entreprise. On n'a jamais eu de problème parce que nous avons mis depuis le début les limites à nos occupations et à nos heures de travail. Donc déjà, mon mari, il s'occupe de tout ce qui est logistique, tout ce qui est sur terrain et tout ce qui est technique. Et moi, on avait bien défini, moi je m'occuperai de la commercialisation, du relationnel, de tout ce qui est administratif, de la comptabilité. Donc, on n'a jamais eu je vais expliquer ça. On sait chacun ce qu'on a à faire. Et ça ne nous empêche pas quand même de voir si on a besoin de conseils, si on a besoin d'autres services en plus par rapport à l'autre. Mais on a toujours su que ça, c'était le travail de mon mari. Et là, c'était mon travail. Et on a toujours fonctionné comme ça. Donc, ça s'est bien passé. Ça s'est toujours très, très bien passé. Et de ce côté-là, ça se passe très, très bien.
D'accord. Et aujourd'hui, on le sait tous, il y a 3 ans, il y a eu la pandémie partout dans le monde avec la COVID-19. Oui. Comment vous avez pu, vous, surmonter cette pandémie ? Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période ? Comment vous aviez pu continuer votre business quelques années après ?
C'était très, très, très dur parce qu'on n'avait vraiment aucune aide, que ce soit de la part de l'État. Donc, il a fallu se débrouiller vraiment tout seul. C'était très compliqué. Mais au fait, mon avantage, l'avantage de Tour Malin, c'est qu'on a été vraiment une équipe unie et solidaire. Donc, pendant un certain moment, on a quand même fait de notre mieux pour garder un petit peu le personnel qu'on avait. Et puis, à un moment donné, on ne pouvait plus. Donc, on aidait ces personnes-là autrement, pas forcément au niveau financier, mais vraiment autrement. On les accompagnait à trouver d'autres activités en parallèle, par exemple. C'était une période très, très dure. Comment moi personnellement je m'en suis sortie, parce que j'avais très très peur de me dire que du coup, donc du jour au lendemain, moi je suis une personne très très active, donc j'avais très très peur de me dire qu'un jour je vais devoir rester chez moi. C'est ce qu'on me dit d'ailleurs, ah maintenant tu restes chez toi, tu as le temps pour toi, tu te mets devant la télé, mais ça je n'ai jamais accepté cette idée-là. Donc moi personnellement, c'est ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise à m'inscrire dans toutes les formations que j'ai pu trouver, les formations gratuites. Je me suis inscrite dans tous les comités de travail, dans des associations pour du bénévolat. Et ça m'a rempli mes 2 ans et demi de fermeture du tourisme. Mais en même temps, ça m'a beaucoup, beaucoup enrichi, parce que j'ai pu développer mon réseau, j'ai pu faire des formations auxquelles je n'avais pas normalement accès auparavant. Donc ça m'a beaucoup aidé personnellement au niveau de l'entreprise. Par contre, c'est encore difficile parce qu'on a, comme en général, toutes les entreprises d'ailleurs du secteur, on a toujours les arriérés qui n'ont pas pu être réglés depuis les fermetures de 2 ans et demi. On avait la caisse à zéro. Mais on ne perd pas espoir. Je me dis aussi, Tourmalin, c'est une toute petite entreprise. Si on a tenu depuis toutes ces années-là jusqu'à aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose. Il faut insister. Il faut tenir. Et de toute façon, dans la vie, dans une société, il y a toujours des hauts et des bas. Des fois, ça dure 2 ans et demi, le bas, mais on est toujours là. Et surtout, le travail, on le fait par et pour la passion. Donc, je pense que c'est ce qui nous retient tous. Toute l'équipe de Tourmalin dans la vie de la société.
Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'équipe qui est Tourmalin pour qu'on sache un peu avec qui tu travailles en plus de ton mari, bien sûr, qui est le co-gérant?
D'accord. Donc, dans l'équipe de Tourmalin Madagascar, j'ai d'abord un guide qui s'appelle Laj. Il a été avec nous depuis 2017, donc il avait fait des études touristiques. Et il avait fait sa première demande de stage chez moi. Donc, c'est moi qui lui ai un petit peu mis dans l'ambiance du professionnel du tourisme. Donc, il a un petit peu fait un peu de tout chez moi. Il a fait commercial, il a fait les cotations, il a fait les programmes. Mais finalement, il s'est plus comme tous les nouveaux diplômés d'ailleurs. Beaucoup se plaisent. Surtout pour partir et pour amener les clients. Et pour eux, c'est un voyage. Mais ce qui est bien avec Latch, et je tiens vraiment à le mentionner, c'est une personne qui s'est vraiment investie avec nous et qui a accepté la situation depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc, il est toujours là. Il est très intègre, il est très sympathique, il est sérieux, il est professionnel, il est vraiment une personne de confiance. Et ce qui est important avec lui, c'est qu'il a su comprendre et intégrer toute la philosophie de l'entreprise dans tout son travail. Après, j'ai des stagiaires qui viennent me voir de temps en temps. J'ai des stagiaires qui passent pendant 3, 6 mois ou même un peu plus. Au fait, je n'ai pas encore eu la possibilité d'avoir vraiment des employés déclarés officiellement. Je n'avais pas encore les moyens. Mais par contre, je travaille avec beaucoup d'élèves ou d'étudiants, soit de l'université, soit de l'école reconnue dans le tourisme à Antananarivo. Donc, ces personnes-là viennent en même temps pour apprendre et pour un petit peu comprendre le monde du tourisme. Et moi, de mon côté, je leur permets de vivre un petit peu professionnellement toutes les études qu'ils ont pu faire pendant leur formation. Mais en même temps acquérir de nouvelles expériences, mais surtout, leur faire comprendre ce que c'est être un vrai guide ou un vrai acteur du tourisme du secteur.
Toi, globalement, tu considères que pour pouvoir travailler dans le tourisme, qu'est-ce qu'il faut comme qualité au niveau humain surtout?
Il faut d'abord être passionné surtout. Parce que les petits soucis que j'ai quand je suis en rencontre avec ces jeunes étudiants, c'est que ils ont une image assez artificielle du secteur. Parce que pour eux, le tourisme, c'est juste un moyen pour eux de pouvoir voyager et de pouvoir rencontrer des gens, mais surtout de pouvoir acquérir un peu d'argent de côté. Et ces personnes-là, en général, ils ne prennent pas au sérieux le vrai travail d'un vrai acteur du tourisme. Et par contre, je leur dis chaque fois, si vous pensez faire le travail par passion, au fait, vous allez dépasser toutes ces. Parce que en même temps, vous gagnez beaucoup de richesses personnelles, mais aussi une certaine renommée, parce que du coup, la personne qui va travailler avec passion va pouvoir offrir de vraies valeurs et un vrai travail de professionnel en tant que personne passionnée du métier.
Et tu considères que pour pouvoir aussi devenir gérant, par exemple, d'une entreprise comme la vôtre, toi, tu me disais tout à l'heure que tu avais travaillé d'abord dans le tourisme à différents postes. Est-ce que pour toi, c'est
Oui.
essentiel aussi d'avoir cette expérience en amont pour pouvoir ensuite, après, gérer quelque chose à toi?
Oui, c'est essentiel. Je trouve que c'est essentiel parce que nous savons que le travail du tourisme, c'est tout un ensemble de prestations. Donc, on est amené à côtoyer, que ce soit des prestataires, des hôteliers, des clients, des guides, des chauffeurs. Donc, il est quand même essentiel de comprendre comment est-ce qu'on va vendre un circuit. Il ne suffit pas de faire un copier-coller et de se dire, voilà, on va passer par un tir B, après Rannemoren, après Fianna en dessous. Mais en fait, il faut d'abord connaître les régions. Il faut avoir beaucoup d'informations pour vraiment vivre le circuit proposé. Donc, ce qui est nécessaire de passer dans toutes les étapes du secteur, c'est que, par exemple, en tant que guide, donc on connaît tout ce qui est réalité sur terrain. Donc, ce sont des éléments essentiels qu'on peut amener dans la préparation des programmes. En tant que commercial, on est amené à assurer un bon relationnel avec les clients et avec tous les prestataires de la chaîne de valeur. Donc, ça, c'est une richesse qu'il faut avoir, c'est une connaissance, c'est une maîtrise de soi. Au niveau de la comptabilité aussi, c'est important de connaître un petit peu comment ça marche parce que entre les prestataires, il y a toujours des conditions, il y a des contrats de vente, il y a des conditions à respecter. Donc c'est tout un ensemble qui fait que le jour qu'on va vendre vraiment un circuit, on sait d'où ça vient, comment ça a été monté et comment ça va être réalisé.
D'accord, c'est très clair, merci. Mur, avant de terminer, j'avais quelques questions pour toi sur le côté marketing de ton agence. En fait, j'étais curieuse de savoir aujourd'hui comment vous faites, vous, Tourmaline Madagascar, pour attirer des nouveaux clients, pour acquérir des nouveaux clients via le digital.
Je t'avoue sincèrement, aujourd'hui, on est encore très très faible au niveau digital. On est surtout basé déjà sur les réseaux. On essaie de faire de notre mieux par rapport à nos, comment je vais dire ça, à nos éléments qu'on publie. Je suis actuellement en cours de me former petit à petit sur le digital parce que je sais que c'est vraiment un avenir florissant par rapport au secteur du tourisme. Pour le moment, on fait avec les possibilités, les moyens qu'on a. Donc, on a les principaux réseaux sociaux. Donc, on essaie d'alimenter régulièrement tous ces réseaux-là. Au niveau clientèle, c'est à partir de ces réseaux qu'on essaie d'attirer ou de contacter. Et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, j'ai essayé de m'intégrer un petit peu dans diverses associations ou divers groupes de travail qui sont de niveau international Donc, c'est à partir de là que j'arrive quand même à avoir des contacts, en plus de tout, des emailing que je fais. Donc, ça va, ce n'est pas suffisant, je reconnais, mais j'ai encore beaucoup de chemin à faire au niveau digital et je sais qu'il faut que je le fasse.
Et tu comptes le faire toi et apprendre ou tu comptes travailler avec des agences? Parce qu'à Madagascar, il y a notamment beaucoup d'agences marketing. D'ailleurs, ils seront très ravis d'entendre la réponse que tu vas donner. Tu comptes te former, faire appel à une agence? Comment tu vois les choses?
Pour le moment, je compte me former. Tu sais bien que normalement, quand tu demandes un service, surtout au niveau digital et tout ça, il faut des frais. Pour le moment, je ne peux pas, mais j'essaie de me former parce que j'ai quand même autour de moi des amis qui sont dans ce monde-là, donc qui veulent bien m'accompagner de temps en temps et me. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que ces personnes-là me donnent un petit peu des idées ou des propositions ou me donnent des conseils. Mieux quand tu présentes ça, essaie de faire ça, nanana. C'est ça que j'essaie de faire maintenant. Mais l'objectif principal, quand vraiment, j'espère l'année prochaine, je n'ai pas le choix que de me tourner vers un spécialiste, une vraie entreprise qui s'y connaît en digital et en tout ce qui est développement informatique et visuel.
Alors, mon conseil aussi, quand tu choisis ton agence, prends des gens qui ont déjà de l'expérience dans le tourisme. Parce que des gens qui ont de
Oui.
l'expérience dans le
Oui.
digital, si
Oui.
l'agence a beaucoup travaillé, par exemple, dans l'alimentaire ou
Oui,
des
je
produits type
sais.
voiture, demain, il va te vendre, oui, nous, SEO
Oui.
super fort dans le tourisme, etc. Mais en vrai, ce n'est pas vrai parce qu'il ne va rien connaître et ils ne vont pas te vendre un produit qui sera adapté à toi, tes besoins.
Oui,
Ça, c'est vraiment
oui.
mon conseil, c'est vraiment toujours prendre
Oui,
des
tu
agences
as.
qui sont vraiment expertes dans le tourisme parce que sinon,
Dans le tourisme.
tu balances ton argent par
Mais
la fenêtre.
tu as vraiment raison, parce que depuis quelques années, donc, j'ai quand même pu avoir des formations. Mais au fait, ces formations-là étaient surtout destinées, c'était des formations globales. Et surtout destiné à des entreprises qui ont des produits à vendre. Et nous, ce sont des services que nous vendons. Donc, ça a toujours été difficile pour moi de m'adapter, parce que oui, ça m'a appris beaucoup de choses, parce que les bases sont toujours les mêmes. Mais le moment où j'ai vraiment besoin de me spécialiser dans le secteur du tourisme, sincèrement, je t'avoue, je n'ai pas trouvé jusqu'à aujourd'hui une personne qui vraiment m'accompagnerait dans le développement de l'entreprise en tant qu'acteur du tourisme et en tant que tour opérateur. Et oui, tu as raison, il faut vraiment que je trouve des personnes qui s'y connaissent en tourisme, parce que vendre un produit et vendre un service touristique n'est vraiment pas pareil.
Peut-être qu'avec Malabar, tu vas trouver quelqu'un qui va te contacter, qui va
J'espère,
te dire,
j'espère.
Mur, c'est moi qui suis la bonne personne. Peut-être, on ne sait pas.
J'espère, j'espère, j'espère. Et en plus, ce secteur-là, c'est vraiment une animation, c'est vraiment un monde à part. C'est vraiment vivre quelque chose, une expérience, pas ce qu'on voit tous les jours. Et sincèrement, oui, je veux bien si quelqu'un est intéressé à m'accompagner un jour.
Très bien, bah écoute, on partagera ensuite tes coordonnées, d'ailleurs peut-être tout de suite. Est-ce que tu veux partager ton adresse mail peut-être ou si tu as aussi un Facebook, je pense que les gens majoritairement te contacteront là-dessus ou est-ce qu'ils vont tout simplement sur le site Tourmalin Madagascar?
On a tous les réseaux. Donc moi personnellement, je suis sur LinkedIn et je suis sur Facebook. C'est Miura Rapatsalai. Après, on a aussi Tourmalin ou Tourmalin Madagascar sur les réseaux du Facebook. Et pour me contacter, donc mon mail c'est miura@tour-du-6-malin-du-6 madagascar.com.
Super, comme ça, les personnes qui auront envie de te faire des propositions pourront t'écrire directement. Mur, avant de terminer, j'ai des petites questions d'ordre personnel pour toi sur Madagascar. Est-ce que tu es prête?
Oui, je t'en prie, vas-y.
Quel est ton lieu préféré à Madagascar?
C'est à Radan, c'est dans le village où on fait notre projet social.
Ton plat malgache préféré?
C'est le fameux raftoutou du côté de Antsapanan. C'est un petit resto, une petite cargote qui fait du raftoutou au coco, mais qui est super bon avec du tchafoun.
Ton plus beau souvenir à Madagascar?
Mon plus beau souvenir à Madagascar, c'était les premiers sauts de mon petit garçon dans une grande piscine à Nosy
Un
Be.
mot?
C'était de pouvoir amener mon garçon en voyage et connaître un petit peu Madagascar.
Très beau souvenir. Un mot ou une expression que tu dis souvent en malgache?
Oh. Je sais pas, allez va. Allez
Allez.
va.
Et enfin, pour terminer, est-ce qu'il y a un message Tinozaren, am niu la mienum ti podcasti, un tom malabar, apakatono, am ten kas, rametiam
Tentixarena de azakivy mihitsy ny rehefa misy zavatra tiana atao, rehefa misy objektifa tiana tratrarana. Ny fiainana ambony ambany foana, fa mahereza foana dia tsisy ino moa tena zany, tsisy zavatra tsy vita zany amin'ny fiainana. Indraindray ianao marary, indraindray ianao mitomany, indraindray ianao mianjera. Fa araka le fiteny moa le hoe ny fiainana, plus ianao mianjera dia plus ianao lasa mihamatanjaka foana, satria fantatrao foana ny tokony ho lalana hizoranao ny ampitso. Dia izay, dia indrindraindrindra koa hoe matoky tenanao. Satria amiko izany ny olona rehetrarehetra manana richesse intérieure daholo daholo daholo, fa indraindray mbola tsy fantatry ny olona hoe inona marina moa ilay zavatra haiko, dia matoky fa manana an'izay tsirairay avy ny olona, dia rehefa indray andro ka tafavoakanao iny dia iny no entinao hizorana ny lalana.
Super. Misaotra anao, Miour. Misaotra
Merci,
nahatongavanao amin'ity
Sambatra.
malabarity. Dia amin'ny manaraka indray.
Velo masambatra dia masoto dia mirary soa anao.
Merci beaucoup. L'épisode touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Malabar, c'est bien plus qu'un podcast, c'est une aventure à travers Madagascar. Ce podcast, c'est également le vôtre. Alors si vous souhaitez partager votre histoire ou si vous connaissez quelqu'un qui mérite d'être entendu, n'hésitez pas à nous contacter sur malabar.fr ou sur LinkedIn, Sambatch Rapefarnouch. Ensemble, continuons à explorer les joyaux cachés de Madagascar. Amanarakanjayo, velum!